冬瓜。
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Monde d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et les militants d'attaque.
Bonsoir, nous retrouvons aujourd'hui l'émission avec un invité venu de l'association Acrimed Blaise Magnin. Mais pour commencer, et pour ne retrouver une bonne tradition, les chroniques d'actualité de Jean-Marc.
Alors, il est impossible cette semaine de ne pas parler de la Mandela Mania. Alors, Mandela par-ci, Mandela par-là, Mandiba ailleurs. Le monde entier adore Mandela depuis qu'il est mort. Ça, c'est un grand classique des décès des personnes célèbres. Tout le monde les adore une fois qu'ils sont morts. Mais Mandela, c'est un peu particulier. C'est un saint, un dieu, un surhomme, un exemple. Tout le monde l'a adoré, tout le monde l'adore et tout le monde l'adorera. Le cirque bat son plein dans la presse et dans le marigot des présidents passés et présents. Ils ont tous fait la queue pour rendre hommage au grand homme en oubliant les position des différents pays du temps de l'apartheid. Et c'est assez drôle de voir les représentants de pays qui ont soutenu activement l'apartheid, qui ont vendu des armes à l'Afrique du Sud, se retrouver tous coude à coude avec la larme à l'œil pour honorer celui qui a passé la moitié de sa vie en prison, ou presque. Non, la moitié de sa vie, j'exagère, il est mort très vieux. Alors, ils ont fait la queue, et même les représentants de l'Angleterre, donc conservatrice, alors que Thatcher traitait Mandela de terroriste, même les Bush père et fils, alors que les États-Unis ont réussi à l'exploit de ne retirer Mandela de la liste des terroristes, vous savez quand ? Petite interrogation au passage, vous savez quand ?
Eh bien, 1988, quelque
seulement
chose comme ça,
15 ans après sa libération, alors que Mandela était déjà prix Nobel de la paix et qu'il avait déjà été deux fois élu président de l'Afrique du Sud, il a été seulement retiré de la liste des terroristes par la CIA. Donc, un grand circus. Bravo les gars, c'était beau et on pleure tous de rire.
Alors, pour rebondir là-dessus, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que justement, pour critiquer les médias, il y a deux points qui n'ont pas été abordés. C'est l'histoire de l'Afrique du Sud, en premier point. Et deuxièmement, qu'est-ce que l'apartheid, précisément ? Et je trouve que, justement, on était dans la géographie et dans le portrait du personnage, même avec des critiques précises. Regardé la télévision, j'ai écouté la radio, j'ai lu les journaux, mais il manquait ces deux éléments qui me semblent très importants.
Moi, j'ai la définition de Margaret Thatcher qui est intéressante. C'est l'apartheid, c'est un système qui permet d'éviter que les Noirs se battent entre eux.
Ouais, mais précisément.
Elle était bien, Maggie. Hein.
Quelle grande dame.
Mais précisément, l'apartheid, c'est des lois et discriminatoires et qui sont quand même précises. Et l'histoire de l'Afrique du Sud aussi. Je m'imaginais en inversant l'histoire de l'Afrique du Sud, ce serait la Norvège qui serait dominée par les Zoulous.
Pourquoi pas ?
Bon, ils feraient moins chier. Hein.
Oui.
En même temps.
Mais c'est pas le cas.
On enchaîne sur une autre petite chronique d'actualité, Jean-Marc.
Ah oui, alors tant qu'à remuer les choses amusantes, depuis l'arrivée de nos super socialistes au pouvoir, on a eu plein de débats intéressants, à la défaut d'avoir des actes. On a eu un débat fascinant avec des arguments de fond qui nous ont passionnés sur le mariage pour tous. On a eu des reliquats de débats pourris sur l'immigration, et ça recommence aujourd'hui avec le dernier rapport. On a un vrai faux débat fiscal, et c'est pas fini. C'est pas fini, on va avoir des débats très intéressants avec les municipales et les européennes. Là aussi, ça va sentir bon. Mais en 2014, Christiane Taubira nous annonce un débat qui devrait faire florès également. En 2014, au deuxième trimestre 2014 normalement, après les élections municipales et européennes, la garde des Sceaux envisage de relancer donc une réforme de l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs. En soi, c'est pas une mauvaise chose parce qu'elle a besoin d'être dépoussiérée. Le problème, c'est que dans l'ambiance politico-médiatique actuelle, ça va donner surtout 3, 4, 5, 6 mois, ça dépendra de la forme de ces messieurs, d'empoignades avec des arguments déjà ressassés 1000 fois entre la droite réactionnaire et qui veut punir les mineurs dès l'embryon et la gauche qui va être taxée de laxisme dès qu'elle va dire qu'il faut respecter le côté éducatif de l'ordonnance de 45. Donc encore un beau débat pourri. Merci. Merci à ce petit monde de nous préparer encore un joli printemps.
Mais sans eux, on s'ennuierait quand même. Enfin, on parle que de eux. Ils nous occupent. Enfin...
Oui, et puis la droite est dans la rue. C'est, enfin, entre les pigeons et hein, le printemps français. Voilà.
Puis alors j'enchaîne, tant qu'à être dans les grands personnages, on va parler d'un très très grand personnage à statut international, Dominique Voynet. Dominique Voynet a jeté l'éponge, elle ne se représentera pas à la mairie de Montreuil. J'ai failli pleurer, ça, j'étais très déprimé. Une mairie qui était si bien tenue. Et elle l'a fait très très bien, comme une grande diva qu'elle est. Elle a fait ses adieux à la scène de Montreuil et à la scène presque nationale à travers Montreuil. C'était vraiment triste. En fait, Dominique Voynet est peut-être moins... joli qu'il n'y paraît, encore une fois, c'est pas tant parce qu'elle veut abandonner la politique dans une ambiance qui est très désagréable pour elle et pour la ville, que parce qu'elle a lu les sondages, et les sondages pour elle étaient tellement calamiteux qu'elle a préféré jeter l'éponge plutôt que de se prendre une belle veste.
Bon, ça c'était la petite actualité politique. Tu vois que finalement, on en recause tout le temps, et grâce à toi. Mais Magali, une autre actualité, c'est celle d'Unilever.
Oui, puisque le 7 décembre dernier, le comité de soutien Ofralib a appelé au boycott des marques de la multinationale Unilever en soutien aux salariés de Fralib qui sont en lutte depuis 3 ans. Donc c'est une activité moins brûlante, mais qui est toujours quand même sur le devant de la scène, qui sont en lutte donc depuis 3 ans pour le maintien de l'outil industriel et des emplois. Donc, pour rappeler les faits, en septembre 2010, Unilever décide de fermer l'usine Fralib à Gémenos, qui emploie 182 personnes et qui était la seule en France à fabriquer les thés Lipton et les infusions l'éléphant. Donc, les Fralib voudraient relancer leur activité avec un projet de SCOP, de coopérative, en s'appuyant sur des productions locales et en reprenant la marque l'éléphant installée depuis 118 ans en Provence. Mais la direction de l'entreprise rejette cette proposition qui, selon elle, nie les réalités économiques et ne représente, je cite, « aucune alternative sérieuse à la fermeture ». Alors l'alternative pas sérieuse est pourtant soutenue quand même par le Conseil régional PACA. Cette incitation au boycott a pour but d'exiger d'Unilever à la fois la cession du nom de marque l'éléphant et un certain volume de commandes pendant la période de démarrage de l'entreprise en SCOP. Mais 3 ans plus tard, le combat continue. Pourtant, on est en droit de penser, et le ministre du redressement productif le serait aussi, qu'il ne serait pas impensable de mettre un peu la pression sur une entreprise qui fait 51 milliards de chiffre d'affaires, 5 milliards de profits nets, et dont les plans sociaux ont été rejetés à 3 reprises par la justice. Et qui, accessoirement, a volé 60 millions d'euros par an au fisc français grâce à son expertise en matière de dumping fiscal, tout en supprimant un tiers de ses emplois sur le territoire en 10 ans. Donc financer un plan de relance de l'activité en rognant un peu sur les 13 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires ces 7 dernières années ne semble pas impensable. Mais il faut savoir aussi que pendant ce temps-là, en 2011, Unilever a reçu le prix Vigeo des mains de Nicole Nota en récompense de son engagement en matière de gouvernance responsable.
Alors Nicole Nota, c'est quelqu'un, hein, c'est quelqu'un de bien.
Gouvernance responsable, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, j'ai fait une petite recherche Wikipédia qui nous indique que la gouvernance d'entreprise et de toute autre institution, c'est l'ensemble des organes et des règles de décision, d'information et de surveillance qui permettent aux ayants droit et aux partenaires d'une institution de voir leurs intérêts respectés et leur voix entendue dans le fonctionnement de celle-ci.
La démocratie, quoi.
Tout à fait. On se doute exactement qu'une gouvernance responsable n'est ni plus ni moins que l'application de ce principe de bonne gouvernance. Et j'imagine
c'est pas le fait de mettre des savonnettes bio dans les toilettes du conseil d'administration ?
Non, ça, c'est le développement durable.
Ah, pardon.
Et j'imagine combien les salariés de Fralib ont le sentiment d'être dans un groupe qui respecte leurs intérêts et entend leur voix. Si l'on va sur d'autres sujets comme l'écologie, justement, puisque tu en parlais, Jean-Marc, on apprend qu'en 2011, Unilever obtient la première place du Dow Jones Sustainability Index, donc un index de développement durable, dans la catégorie agroalimentaire pour la 13e année consécutive. Alors, la même année, elle emporte aussi le Grand Prix des International Green Awards de Londres. Bref, on se souvient pourtant de la polémique des tests sur les animaux pratiqués par le groupe pour montrer les effets bénéfiques sur la santé des Teliptons. On sait aussi que, à part dans les pays...
C'est pas mal de refuser une souris, il y a une queue.
On sait aussi qu'à part dans les pays où le phosphate a été totalement interdit dans les lessives comme en France depuis 2007, Unilever continue à l'utiliser dans ses produits. Malgré les dommages qu'entraîne le phosphate sur les eaux des lacs des rivières. Encore pire, le PDG, Paul Polman, du groupe, a été nommé membre d'un panel de réflexion aux Nations Unies pour réfléchir au développement durable de la planète. Alors peut-être faudrait-il commencer par lui expliquer que le développement durable n'est pas le développement durable du commerce international. Il ne s'agit pas, comme le fait aujourd'hui Unilever, d'acheter le tilleul en Amérique latine, de le faire venir en Allemagne, où il parcourt ensuite 6000 km pour être coupé, avant de repartir par camion en Pologne pour être conditionné. Et de Pologne, il arrive en France pour être vendu aux consommateurs. Non, le développement durable appliqué au thé, ça serait plutôt acheter le tilleul à proximité de l'usine pour le travailler, le couper et le conditionner sur place, puis le vendre aux consommateurs français. Tiens, c'est justement le projet d'Efralib avec leur scope. Ah ben mince. Alors, heureusement, il y a quand même quelques initiatives pour dénoncer l'hypocrisie de ces dirigeants de grands groupes qui font fièrement la course pour voir lequel arrivera le premier dans le mur. Et parmi ces initiatives, il y a le prix Pinocchio qui est décerné chaque année par les Amis de la Terre au plus gros menteur. Alors, pour ce prix Pinocchio, cette année, il a été remporté par Veolia dans la catégorie « Une pour tous ». Tout pour moi, pour son implication dans des projets de privatisation de l'eau en Inde. Il a été également remporté par Areva dans la catégorie « Plus vert que vert », puisque la multinationale du nucléaire avait quand même osé ouvrir Eureka, un musée à la gloire des mines d'uranium, et ce, sur le site d'anciennes mines du Limousin, qui ont laissé un lourd passif environnemental et sanitaire. Et enfin, le prix Pinocchio dans la catégorie main sale, poche pleine a été décerné à Auchan, qui refuse de reconnaître sa responsabilité et de participer à l'indemnisation des victimes de l'effondrement des usines textiles du Bangladesh, alors que les étiquettes de ses vêtements ont été retrouvées dans les décombres de cet accident qui a fait quand même 1133 morts et encore plus de blessés. Voilà.
Une bonne petite chronique réjouissante. Et pour revenir sur l'Afrique du Sud et redonner un petit message des années bien lointaines où Mandela était encore en vie mais en prison, on écoute le groupe Savuka, dirigé par Johnny Clegg, Azimbonanga.
Azimbonanga, Azimbonanga, Mandela Tina. La pekona, la pekheli kona.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et les militants d'Attaque.
Alors, ce soir, on reçoit Blaise Magnin de l'association Acrimed.
Bonsoir.
Voilà. Alors, Blaise, qui est à la fois adhérent et salarié d'Acrimed.
Tout à fait, j'ai cette chance.
La première question.
Ça commence comme ça, la collusion.
Et la collusion va très loin, je tiens à le préciser, par mesure de déontologie, puisqu'on va parler un petit peu des médias. Là, on est dans un média alternatif, mais bon, média quand même. Je suis moi-même adhérent d'Acrimed. Donc tout ça est cousu de fil blanc.
Alors, c'est deux qui a la Ferrari de la sauce.
Et c'est quoi Acrimed là?
Voilà, justement, c'était précisément la première question que j'avais posée à Blaise. Qu'est-ce que c'est qu'Acrimed?
Alors Acrimed, c'est l'acronyme d'Action Critique Média. Acrimed, ça a été fondé en 1996, au lendemain des grandes grèves du mouvement social de novembre-décembre 95, pour ceux qui se souviennent, et en réaction au traitement médiatique des grévistes à l'époque. Alors l'objectif d'Acrimed, c'est de faire de la question des médias une question politique. Alors ça passe par deux types d'actions. D'une part, dénoncer l'état, le fonctionnement et les dysfonctionnements de l'ordre médiatique, du système médiatique. Ça, c'est l'aspect critique. Ça passe par notre site acrimed.org et par une revue trimestrielle qui s'appelle Média Critique, à laquelle j'invite tout le monde à s'abonner. Voilà. Et puis alors d'autre part, l'aspect action, et qui est en lien encore plus direct avec cet objectif de faire de la question des médias une question politique, on essaye de transformer le système médiatique avec les forces qui sont prêtes à nous accompagner pour le faire.
Alors d'accord, mais donc le but, est-ce qu'on peut dire que le but c'est de changer les médias ?
Oui, le but, alors peut-être pas à très court terme, mais bien sûr c'est de changer les médias et surtout de faire en sorte que dans le champ politique, dans le monde syndical, on soit conscient et qu'on sensibilise ces gens et ben la nécessité de transformer les médias, justement.
Oui, il y a des actions militantes qui permettent d'amener à cette prise de conscience. Bon, t'as parlé un petit peu de la revue, du site, mais je veux dire, est-ce que il faut descendre dans la rue pour dénoncer les médias ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ouais, alors c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr. Il faut agir. C'est une partie des activités de l'association. Alors ça veut dire être présent dans les manifestations sectorielles de salariés en général, de salariés des médias, bien sûr, quand il y a une mobilisation dans le secteur des médias. Et elles sont nombreuses parce que ce soit sur le service public audiovisuel ou dans la presse, il y a des plans sociaux en permanence. Donc soutenir les salariés des médias qui sont en lutte contre la façon dont fonctionne le système médiatique. Essayer aussi d'être le plus présent possible à travers des interventions publiques, dès qu'on nous sollicite, là aussi, par des associations, des syndicats. Par exemple, à l'occasion du film Les Nouveaux Chiens de Garde, de Yannick Erdoat et Gilles Balbastre, qui a été un gros succès pour un film documentaire qui n'a pas été diffusé dans les grands médias, justement. On a fait plusieurs centaines de débats publics, de projections et de débats publics partout en France, pour sensibiliser les gens à cette question des médias. On fait aussi des interventions pour l'éducation nationale. On a essayé en 2005 et puis en 2007 et 2008 de mobiliser autour du problème du pluralisme dans les médias en organisant des états généraux du pluralisme dans lesquels sont intervenues différentes forces politiques et différentes forces syndicales. Voilà. Et puis on essaye aussi d'interpeller les partis politiques sur la question des médias en profitant des échéances électorales, et puis d'essayer d'obtenir des réponses, voire d'infléchir les positions des différents partis.
Et comment l'association est perçue par les médias eux-mêmes ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les journalistes ? Est-ce qu'ils se sentent concernés par votre combat, ou est-ce qu'ils sont... Bon, c'est encore une organisation gauchiste qui prétend nous expliquer comment faire notre métier.
Alors ça dépend de quel journaliste on parle. Si on parle des grands hiérarques de la presse, ceux qu'on appelle les éditocrates, hein, les stars des médias, eux, je suis pas certain qu'ils soient ravis de ce qu'on fait. Ils nous connaissent sans doute, ils nous méprisent et ils nous ignorent. Par contre, on sait que parmi les salariés des médias, les soutiens de l'information, ceux qui bâtonnent les dépêches quotidiennement et qui ont, il faut bien le dire, hein, pas grand pouvoir dans les rédactions, on sait que chez ceux-là, il y a de la sympathie. Et puis surtout, on a des relations très régulières et très cordiales avec les principaux syndicats de journalistes que sont le SNJ et le SNJ-CGT.
Alors qu'est-ce qu'on reproche aux médias, finalement ? C'est quoi le problème avec les médias ?
Alors, c'est quoi le problème avec les médias ? C'est d'abord un manque d'indépendance, pour la plupart. Après des décennies de fusion et de concentration, ils appartiennent à des grands groupes, ils sont très financiarisés et très concentrés. Donc, un manque d'indépendance vis-à-vis des grandes puissances économiques. Ça, c'est une première chose. On reproche aussi, dans la production médiatique quotidienne, un manque de pluralisme. Sur les grands dossiers sociaux, je sais pas moi, vous prenez les réformes des retraites, on a systématiquement Je vous invite éventuellement à aller regarder le dernier numéro de Média Critique, enfin ou l'avant-dernier, le numéro 9, qui était consacré à cette question. On montre que depuis 20 ans, on nous ressort le même discours. Et ça passe par la stigmatisation des grévistes ou de ceux qui s'opposent aux réformes qu'on inflige aux salariés. Et ça passe par le rabâchage de toujours les mêmes recettes, c'est-à-dire le recul de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation des annuités, etc. Donc des réformes régressives qu'on nous impose. Donc un manque de pluralisme et puis un manque d'objectivité de journalistes qui, en guise d'information, alors là aussi je vise principalement les grands journalistes des grands organes de presse, un manque d'objectivité, c'est-à-dire qu'on essaye de nous faire passer pour des informations en réalité ce qui sont des prises de position, quoi. Voilà, et des opinions tranchées qui sont en aucun cas objectives et neutres, quoi.
Alors ce problème d'indépendance, ça se traduit comment en fait concrètement? Comment est-ce que un propriétaire, par exemple, de journal impose une ligne?
Alors il impose. Alors ça, il faudrait spécifier média par média. On sait que Serge Dassault a tendance à être un petit peu interventionniste au sein de la rédaction, mais c'est pas pour autant qu'il place ses papiers ou qu'il oblige tel rédacteur à écrire sous sa dictée telle opinion. C'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus discret que ça. Mais on imagine bien que lorsque le ministère de la Défense passe un grand marché et l'attribue à Serge Dassault, les journalistes du quotidien vont présenter la chose sous un certain angle. On pourrait multiplier les exemples. Lagardère, qui était un grand vendeur d'armes, a un des plus grands groupes de presse en Europe. On imagine bien qu'un responsable politique va pas se comporter avec lui dans des négociations comme avec quelqu'un qui ne posséderait pas la possibilité de le faire passer ou non dans les pages de ses journaux.
Est-ce qu'on peut affirmer que pour quelqu'un comme Dassault, justement, qui cherche à défendre son entreprise, à se placer, à avoir de bonnes relations avec le pouvoir, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un journal pour ça?
Donc ce journal, c'est le Figaro, on l'a pas cité.
L'actualité prouve que oui, parce que ce pauvre Serge Dassault, quand même, grâce au Figaro, peut nous interpeller sur le fait qu'il a été sauvagement racketté par de dangereux personnages de sa municipalité.
Alors justement, le Figaro rend pas tellement compte de ces petits ennuis judiciaires, ou alors sous un angle légèrement biaisé. C'est un exemple typique. On peut parler, alors Dassault je sais pas, mais Bouygues a dit très clairement dans un entretien, je peux pas vous dire la référence exacte, mais que quand il avait entre ses mains le pouvoir de désigner les invités du 20h, il avait un pouvoir de pression sur les hommes politiques, très clairement.
Et on a souvent parlé, et c'est une critique qu'on retrouve un petit peu dans ce que produit Acrimed, d'une pensée unique. Voilà, on a l'impression finalement dans tous les grands journaux, que ce soit à la télé, à la radio, dans les journaux papier, on retrouve un petit peu les mêmes idées, généralement un peu, disons, centristes, de droite, libérales. Voilà. Comment est-ce que ça existe vraiment, ou est-ce que c'est l'impression qu'on a parce qu'on est de gauche? Et si ça existe, comment ça se met en place?
Si on prend les questions économiques, c'est quasiment impossible aujourd'hui de lire dans la grande presse, pas la presse d'opinion de gauche, voire de gauche. Parce que la presse de gauche, justement, sur ces questions économiques, si on pense à la Libération, éventuellement au Monde, est totalement orthodoxe. C'est impossible de faire passer, en dehors de tribunes, et de traiter objectivement les positions qui seraient qualifiées d'hétérodoxes, ou en tout cas, qui ne seraient pas dans ce mainstream, ce courant économique dominant. Donc sur ces questions, on le démontre sur énormément de sujets. Donc voilà, de ce point de vue-là.
D'accord.
Pour essayer de rebondir sur juste cette interrogation-là, je ne sais pas si une réponse est facile, mais pourquoi des journaux qui justement voudraient témoigner d'une autre pensée plus hétérodoxe n'arrivent pas à s'imposer comme un grand média si finalement cette pensée est plus intéressante ou en tout cas plus séductrice que la pensée dominante.
On peut dire qu'il y aurait une orchestration des positions, mais il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est-à-dire que tous les grands journalistes sont passés par les écoles du pouvoir, viennent eux-mêmes, c'est-à-dire Sciences Po principalement, et des grandes écoles de journalistes qui sont liées à Sciences Po. Ils viennent en général des mêmes milieux, c'est-à-dire de milieux très favorisés. Et tout ça, ça fait... on retrouve des positions qui sont très similaires dans la plupart des médias, notamment sur les questions économiques.
Enfin bref, ils veulent tous passer à la télé. C'est exactement ce que nous racontent les Cowboys Fringues hein, dans leur chanson « La télé ».
Bonsoir, de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants d'Attaque.
Et donc on reprend cette discussion avec Blaise Magnan, adhérent et salarié d'Acrimed, et donc notre représentant d'Acrimed pour ce soir, qui nous explique un petit peu à la fois ce que fait Acrimed et comment fonctionnent les médias. Et reprendre avec une autre question, finalement, dans toute cette critique des médias, est-ce qu'il y a des médias dont on peut dire qu'ils font leur boulot, qu'ils sont indépendants, qu'ils représentent ou qui participent d'une pluralité
Oui, bien sûr, on peut le dire.
TF1
Non, le Monde, c'est un journal centriste, voyons, il est donc parfaitement équilibré.
Ouais, parfaitement équilibré. Non, je pense, j'irais plutôt voir du côté de, écoutez, l'Humanité, Politis, Le Monde diplomatique. Alors, vous me direz que tous ces journaux,
ça m'a l'air un peu biaisé quand même tout ça.
Ils ont une certaine orientation, oui, mais justement, ils participent du pluralisme parce qu'ils ont cette orientation qu'on n'entend nulle part ailleurs.
Et Minute,
si on est un petit peu conséquent, on ne cherche pas à interdire Minute, on cherche à le contrer sur son terrain. Mais je suis pas sûr que Minute ait comparativement aux quelques titres que je viens de citer ait une grosse audience.
Et donc finalement, d'une certaine manière, il vaut mieux afficher la couleur quand on est un média.
Oui, bien sûr, c'est la moindre des choses. L'objectivité, a priori, elle passe au moins par là. C'est de dire quand on présente une opinion et pas des faits, ou en tout cas qu'on présente ces faits sous un certain angle, avec certains objectifs et certains préalables politiques.
Mais alors, est-ce qu'il peut y avoir, comme par exemple a été une époque Le Monde, un journal de référence qui aurait une telle déontologie, puis en plus c'était une coopérative, donc pour le coup c'était pas un instrument du grand capital, une telle déontologie, puis un tel travail de fond, de recherche sur ces papiers, qu'on peut le considérer comme un journal de référence et s'appuyer dessus de manière sérieuse, comme si, d'une certaine manière, Le Monde dit la vérité.
Si ça a pu être le cas à une certaine époque, ce type de journal de référence, je crois que il n'a pas toujours été usurpé. Aujourd'hui, il l'est très clairement. Le Monde est l'organe des élites qui vise un lectorat de cadres supérieurs et s'arrête à ça. Le Monde n'est plus un journal de référence. Je ne pense pas qu'on puisse considérer aujourd'hui qu'il reste encore un média de référence.
Il reste Les Échos quand même. Tout le monde lit Les Échos. C'est la seule presse qui vaut la peine.
Oui, c'est la référence du
MEDEF.
Comment
peut-on vivre sans Les Échos?
Sinon, il y a Métro. Il y a des articles de fond quand même assez balèzes.
Hein. Ah, c'est très fouillé, Métro. Ouais.
L'Équipe?
L'équipe, niveau conflit d'intérêts, L'Équipe pour le sport, en tout cas en termes de diffusion, c'est sans compter, c'est un journal de référence. En termes de conflit d'intérêts, c'est une autre histoire. Je rappelle que L'Équipe est quand même détenue par les propriétaires du Tour de France. Donc voilà, on imagine que quand L'Équipe couvre le Tour de France, c'est avec un certain parti pris, quoi.
Et quel laboratoire, alors?
On
peut parler d'une autre petite question. Moi, j'en avais une concernant, par exemple, l'évolution dans le temps. Est-ce que on peut dire que finalement, il y a une époque où les journaux étaient plus propres, meilleurs, ou est-ce qu'il y a des petites révolutions qui font que les journaux progressent, ou est-ce que vraiment on est au fond du gouffre en ce moment?
Ah ouais, là je crois qu'on a atteint le fond du gouffre. En tout cas, le fond du gouffre, on y va depuis puis assurément une vingtaine d'années avec des privatisations en série, notamment bon, si on pense aux radios libres, le développement des grands réseaux, c'était une catastrophe. L'introduction de la publicité partout, c'est une catastrophe. Les concentrations sont une catastrophe. Non, là oui, on se dirige vers le fond du gouffre. Alors historiquement, est-ce qu'il y a eu des périodes plus fastes? Ouais, peut-être qu'après mai 68, il y a eu un certain foisonnement, des choses qui se sont faites. Mais en tout cas, cette période, je crois qu'elle est malheureusement bien révolue.
Tout le monde est rentré dans le bon rang.
Ouais,
bien
dans
de
le
penser
bon
unique.
Bon, alors il y a
quand même le PIAF.
Ah oui, on a oublié de parler du
PIAF. Il y a quand même le PIAF.
Heureusement que le PIAF existe.
Le PIAF sauve l'honneur, ouais.
Mais d'ailleurs, là-dessus, est-ce que finalement l'avenir, c'est pas justement des petits journaux comme ça, qui eux affichent leurs couleurs, qui sont tellement petits que de toute manière ils sont indépendants? Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de ce genre de journaux? Je parle pas du PIAF parce que là, on est vraiment entre initiés, mais...
Non, mais bien sûr, cette presse et ce type de médias alternatifs, indépendants, libres, sont indispensables. Ils participent de ce pluralisme. Il y a en Argentine, il vient d'être voté une grande loi pour réformer le système médiatique qui réserve un tiers de l'ensemble des médias aux médias privés, un tiers au public et un tiers au tiers secteur, aux médias alternatifs. Bon, c'est quelque chose qui semble assez exemplaire. Il faut voir la mise en œuvre, mais elle a déjà commencé et c'est plutôt pas mal apparemment. Mais en tout cas, il faut se diriger vers ça. Alors pour autant... on peut pas se contenter de quelques titres de presse qui pour certains sont excellents mais sont un peu élitistes, hein, il faut dire les choses. Le monde diplomatique c'est pas accessible à n'importe qui. Si on pense, je sais pas, une revue qui a été créée, ça s'appelle on appelle ça enfin les journalistes appellent ça un MOOC, mélange de magazine et de book. C'est de l'excellent journalisme. Il y a des reportages remarquables. Il y a eu un travail sur la photo remarquable. Mais là aussi, c'est cher et ça peut pas être l'information mainstream. Nous, ce qu'on pense à Acrimed, c'est qu'il faut changer les médias dominants. C'est qu'il faut que l'influence de TF1 soit réduite à rien, que France 2 retrouve la volonté de remplir des missions de service, sa mission de service public d'information, ce qu'elle remplit plus actuellement parce qu'aujourd'hui, elle se tire la bourre avec TF1 et donc elle emploie exactement les mêmes recettes qu'elle. Donc, je pense que c'est très bien que ces médias alternatifs existent, mais c'est pas une solution pour l'évolution du système médiatique.
Alors, quand on attaque les médias dominants et les journalistes dominants de ces médias dominants, les rédacteurs en chef, les éditorialistes, etc., ils répondent par un mot magique qui est très important dans le milieu des journalistes, qui est le mot déontologie. C'est-à-dire que le journaliste, parce qu'il a été formé, parce que il a sa carte de presse, il a forcément une idée de déontologie et une volonté d'agir en fonction d'une certaine déontologie.
Ouais, alors dans la bouche de ces gens, c'est le cache-sexe de l'irresponsabilité, hein, la déontologie, il faut dire les choses clairement. C'est comme les chartes de déontologie du MEDEF, qu'on nous promet depuis des années qu'ils sortent jamais, et quand elles sortent, elles n'engagent à rien, hein, voilà, faut le dire clairement. Alors on pourrait imaginer des chartes de déontologie très précises, mais qui seraient adossées à la convention collective des journalistes. C'est-à-dire qu'en gros, on lui donnerait un certain pouvoir ou en tout cas une certaine chance d'être appliqué. Sinon, c'est du vent.
Voilà. D'accord.
Pour être clair.
Et quel effet a la crise économique actuelle et de manière générale la crise des médias, la crise économique des médias sur cette évolution-là? Est-ce qu'on note une différence en fait?
Sur l'évolution de la qualité de l'information,
oui.
Tu veux dire? Oui, je crois, si on regarde l'IB, qui perd des journalistes très, très régulièrement, c'est certainement pas son lien avec l'évolution de son contenu. Et puis c'est un cercle vicieux, parce que quand elle perd des journalistes, le contenu perd de l'intérêt, et quand le contenu perd de l'intérêt, on perd des lecteurs, et donc on n'a plus de sous pour payer des journalistes, donc on baisse le nombre de journalistes, et donc il y a une spirale ouais, régressive pour la qualité de l'information. Et si vous regardez les sites internet des grands médias, c'est de la reprise de dépêche AFP, c'est une information qui est extrêmement pauvre. Et ça, c'est pas, évidemment pas sans lien avec la situation économique des médias.
Donc là, on est sur un problème fondamental, finalement. Les petits médias alternatifs ont peut-être pas les moyens de payer des journalistes qui vont pouvoir faire des travaux de fond. Et les grands journaux, eux, finalement, qui ont a priori l'argent, se concentrent à ne plus faire leur boulot.
Oui, on peut le dire comme ça. Et c'est pour ça que le journaliste d'enquête sociale, par exemple, a complètement disparu. Il n'existe pas. C'est très difficile de trouver une enquête sur les conditions de vie des milieux populaires dans les grands médias. On va trouver des enquêtes clichés sur l'insécurité. On va trouver, Magali parlait tout à l'heure des faux engagements des grandes entreprises en faveur de l'écologie. Alors ça, on va trouver beaucoup dans la grande presse, des pétitions de principe pour le développement durable, mais on sort jamais de la logique capitaliste, on ne présente jamais de position alternative. Et là aussi, c'est la qualité de l'information et du pluralisme qui sont
bon, touchés. Alors, il faut qu'on lance une souscription et qu'on rachète TF1, alors.
Oui, ou une souscription pour Acrimed, pour qu'Acrimed puisse taper encore plus fort et plus efficacement sur TF1.
Si Acrimed prend le contrôle de TF1...
Eh ben, vous aurez enfin du bon journalisme.
Bah voilà la solution, on fait une souscription.
Vous allez rentrer dans le rang, comme tous les prédécesseurs.
Non, ça en évitera, je crois. Et notre but, c'est pas de devenir TF1 non plus.
Et justement, tout ce qui avait fait un garde-fou dans le monde avec la société des rédacteurs, je crois que c'était le terme, qui permettait d'être un contrepoids aux dirigeants, est-ce que ces garde-fous dans les grands médias peuvent fonctionner un jour?
S'ils restent en place, oui, mais ces garde-fous, ils sautent un à un. Par exemple, si on prend l'exemple de Libération, là, qui est vraiment en crise actuellement, la rédaction a voté à 90% pour demander le départ de Demorand. Donc si on prend l'exemple de Libération, la société des personnels de Libération, je crois que c'était son nom exact, a perdu tout le pouvoir qu'elle avait. Maintenant, c'est Rothschild qui détient le pouvoir à Libération.
Ça laisse un froid.
Ça laisse un froid, et c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview.
Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Enfin, so much trouble in the world. Bob Marley.
Bonsoir, retour sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants d'Attaque.
Et alors, je reprends, parce que je ne fais pas que les interviews, par une petite chronique au titre évocateur, les déclinistes ont raison. Eh oui, je tiens à profiter du temps d'antenne qui m'est offert pour rendre hommage à ces brillants intellectuels qui, depuis une bonne décennie, nous expliquent que notre pays va droit dans le mur. Des gens comme Jacques Attali, Jean-Michel Apathy, Nicolas Bavrez, mais je pourrais en citer plein d'autres. Vous qui avez su, avant tout le monde, voir que notre conservatisme, notre goût pour l'administration centralisée, notre refus de la nécessaire adaptation à un monde qui bouge, nous conduisait à la ruine, vous pouvez aujourd'hui savourer votre triomphe.
Donc là, tu vas nous parler de tous ces beaux messieurs qu'on ne passe notre temps à écouter dans les médias dominants.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour leur rendre hommage et pour dire qu'ils ont raison.
Ah, ils sont les pires, là, hein.
Parce que je les ai pas choisis au hasard. Parce que aujourd'hui, en fait, bon, c'est pas aujourd'hui, ça fait déjà un moment, mais les résultats de l'enquête PISA qui est menée par l'OCDE de manière régulière depuis 2000 sont tombés. Et c'est vraiment la preuve du déclin de la France. Dans un domaine, l'éducation, qui est une spécialité française, qui nous a valu bien des titres de gloire, nous sommes passés en 12 ans du 10e rang au 25e rang parmi les pays de l'OCDE. Alors bien sûr, on peut chipoter, rappeler qu'il est souvent difficile de comparer des pommes et des poires, en l'occurrence des systèmes scolaires différents, qui fonctionnent pas forcément avec les mêmes règles, où on n'enseigne pas les mêmes choses et on s'adresse pas au même public. Mais bon, ça c'est chipoter. Et on peut aussi, et c'est ce que je vais faire, comme nos amis déclinistes, admettre l'objectivité des résultats, corroborés d'ailleurs par toute une série d'enquêtes qui sont beaucoup moins connues, mais menées par le ministère de l'Éducation nationale, et passer à l'étape suivante, c'est-à-dire réfléchir aux réformes à mener à l'école pour sortir de l'impasse. Et c'est là que les choses se corsent un peu. Parce qu'en fait, les enquêtes PISA, et là où elles sont intéressantes d'ailleurs, montrent en fait deux choses différentes. D'une part, et c'est ce que la majorité des commentateurs ont retenu...
C'est pour ça qu'on dit un pis-aller.
Bien vu. Ah oui, je viens de comprendre la pizza napolitaine. Bon, c'est pas grave, c'est un private joke. Donc, ce que la plupart des commentateurs ont retenu de l'enquête PISA... n'était pas volontaire celui-là. C'est que dans certains domaines, les mathématiques et la culture scientifique notamment, les élèves français, le niveau moyen des élèves français de 15 ans a baissé. Mais ce que ça montre, et qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la France se caractérise, et ça fait déjà un certain temps, et ça s'accentue avec le temps, par une forte inégalité des résultats en fonction des origines sociales et ethniques aussi des élèves. Et cette idée inégalité n'a fait que se renforcer au cours des 10 dernières années. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi ça s'est renforcé d'ailleurs. Si on regarde les réformes qui ont été menées au cours des 10 dernières années, toutes ont contribué à justement à ce que les choses aillent plus mal. L'assouplissement de la carte scolaire, les diminutions de postes, la nouvelle formation des professeurs, la réforme de l'éducation prioritaire, tout cela a fortement contribué à augmenter les inégalités. Le but n'était clairement pas d'améliorer le niveau, mais de diminuer le coût de l'école. Ce qui a été une réussite, plus de 100 000 postes supprimés, et un budget qui stagne en valeur absolue quasiment depuis 2007, ça veut dire qu'il diminue en valeur relative. Donc logiquement, on pourrait se dire que la première réforme à faire, ça serait de revenir à l'école des années 90. Mais c'est pas du tout ce que pensent les déclinistes. Et c'est là qu'on va commencer à ne pas avoir forcément les mêmes idées avec les déclinistes. Et alors, pour simplifier, il y a deux types de déclinistes. D'un côté, les libéraux, pour qui il faut aller de l'avant, donc surtout pas revenir à l'école des années 90, continuer dans les réformes qui ont été mises en place et aller plus loin, imiter les pays qui sont en avance. Alors en général, les pays qui sont en avance, pour eux, c'est les pays anglo-saxons, même si justement les enquêtes PISA ou les autres types d'enquêtes de ce type-là montrent très bien que dans le domaine éducatif, c'est pas vraiment une grande réussite. Et puis on a, à côté de ces libéraux, des conservateurs pour lesquels il faut revenir à l'école républicaine. Alors, bon, préciser ce qu'ils imaginent par école républicaine, c'est grosso modo l'école d'avant 68, et idéalement, pour certains d'entre eux, en tout cas, l'école d'avant 1914. Pour les conservateurs, la solution, elle est pédagogique. Il faut davantage de discipline, des sanctions, de la compétition pour créer de l'émulation au sein des élèves.
Ouais, mais c'est pas con, parce que 60 élèves par classe, s'ils sont en uniforme, ils écoutent.
Tout à fait. Et bah, d'ailleurs, justement, deux pays où les élèves continuent à porter l'uniforme, c'est la Corée du Sud et le Japon, et qui ont d'excellents résultats dans les enquêtes PISA. Donc ça tendrait à leur donner raison. Bon, alors il y a un détail qui apparaît dans l'enquête PISA qui ne sera pas repris par ces conservateurs, c'est que c'est aussi les élèves les plus malheureux du monde. Mais...
Ouais, mais on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein.
C'est ça. Et sans casser des élèves, du coup. Pour les libéraux, c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de stimuler la compétition aussi, mais pas entre les élèves, mais entre les établissements et à terme entre les profs. Donc, la grande idée des déclinistes libéraux, j'ai entendu par exemple la petite chronique de Brice Couturier sur France Culture, qui allait tout à fait dans ce sens-là, il faut aller vers davantage d'autonomie des établissements, davantage d'autonomie des chefs d'établissement. La possibilité pour les chefs d'établissement de recruter eux-mêmes leurs enseignants, de virer eux-mêmes leurs enseignants, etc.
Oh, ça, c'est neuf, ça fait juste 30 ans qu'ils nous la servent.
Voilà. Il y a un pays qui est modèle de ce point de vue-là, c'est les États-Unis, où au début des années 2000, George Bush avait été très loin justement dans cette idée-là, dans cette idée de mettre en compétition les établissements entre eux. Il avait décidé d'indexer le financement des écoles à leurs résultats, mais alors pas dans le sens qu'on imagine. Hein. C'est-à-dire, moins une école est performante, moins elle est financée. Le résultat a été parfaitement catastrophique, à tel point qu'aujourd'hui, l'administration Obama essaye par tous les moyens d'abandonner ce système, même si...
Moi, je trouve que ça a bien marché. Du coup, ils ont un noir à la Maison-Blanche.
J'avais pas pensé à celle-là. Dans les deux cas, les réformes proposées par les déclinistes ne s'attaquent pas au cœur du problème et qui expliquent très probablement le déclin relatif de l'école française, c'est-à-dire la montée des inégalités scolaires. Et là, une troisième voie séduisante est suggérée par l'enquête PISA. S'inspirer du système finlandais qui, depuis que ces enquêtes existent, a des bons résultats, même si c'est très légèrement en baisse sur la dernière mouture de l'enquête. Le but des Finlandais, quand ils ont réformé dans les années 90 le système scolaire, ça a été très clairement, ils l'ont affirmé de manière explicite, d'amener tous les élèves à un niveau satisfaisant. Alors, pour faire ça, ils ont interdit les redoublements, ils ont rendu obligatoire une aide spécifique apportée aux élèves en plus des heures de cours. Aide spécifique donnée par des enseignants spécialisés. Ils ont interdit les notes et diminué nettement les sanctions dans le primaire pour éviter qu'il y ait des élèves qui ne supportent plus l'école, qui fassent des blocages. Et ils ont donné des moyens supplémentaires aux établissements en difficulté. Voilà. Et avec cette méthode-là, ils sont arrivés à des très bons résultats. Mais ce type de réforme, heurte de plein fouet les préjugés des déclinistes. Bon, d'un côté, pour les conservateurs, on comprend très bien, parce que ce type de réforme, c'est l'institutionnalisation du laxisme. On va pas revenir là-dessus, il faut de la rigueur. Pour les libéraux, ils sont un petit peu plus tentés par ça, mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Et il faudrait remettre de l'argent dans l'éducation, ce qui n'est vraiment pas le but des libéraux. Et enfin, ça pose un problème pour les deux, parce que ça remettrait en question ce qui est quelque chose d'absolument fondamental en France, c'est-à-dire l'excellence à la française, ce qui permet justement de la maternelle aux classes prépa à une élite de se distinguer de la masse, élite dont les déclinistes sont les meilleurs représentants.
Ouais, tout ça, c'est des conneries. Il n'y a que les châtiments corporels. Il faut bien le dire, mon bon monsieur.
C'est un prof d'histoire qui vient de vous parler. Et on attaque maintenant avec l'agenda du mois à venir avec Magali.
Alors, l'association ATTAC organise une projection débat du documentaire La Dette, documentaire de Nicolas Hubelmann et Sophie Mitrani, le 15 décembre à 16h au lieu dit 6 rue Sorbier dans le 20e et le 17 décembre à 19h30 à la librairie des Orgues, 108 avenue de Flandre. Plus d'informations sur le site d'ATTAC.
Alors, journée internationale des migrants ensemble contre la précarité pour le respect et l'égalité des droits, mercredi 18 décembre, 18h, Belleville.
Un spectacle, un one-man show, un écolo-punk de Nathalie Delomo, écolo-coaching pour tous by Babylou. C'est le mercredi 18 décembre à 20h30, péniche Antipode face au 55 Quai de Seine, Paris 19e.
ATTAC Paris 13 organise une projection du film de Jean-Claude Decourt, Simplicité volontaire et décroissance. La projection sera suivie d'un débat et ça a lieu le mercredi 18 décembre 2013 à 19h30 à la Maison des Associations, 11 rue Caillot, à Paris, dans le 13e.
Toujours le mercredi 18 décembre, il faudra faire un choix à 20h. Il y a un autre film, Pôle emploi, ne quittez pas, un film de Nora Philippe qui sera suivi d'un débat animé avec des sociologues et en présence de la réalisatrice. C'est organisé par les débats de Politis le mercredi 18 décembre à 20h au centre culturel La Clé, rue de Daubenton.
Alors, un café politique qui est organisé dans le 17e sur le monde du travail, qui s'appelle « Monde du travail, une précarisation programmée ». Et c'est un débat donc avec Merlène Banquet, sociologue, auteur de « Encaisser, enquête en immersion dans la grande distribution ». Yves Sinagaglia, inspecteur du travail. Et Oriane Cotenay, juriste du travail. Et ça aura lieu donc le jeudi 19 décembre à 19h au Café de la Piscine, 86 rue Jonquière, dans le 17e.
Le Parti Pirate honore les lanceurs d'alerte. Le parti souhaite apporter un soutien symbolique aux lanceurs d'alerte et cet événement marquera le début de la campagne municipale à Paris le 21 décembre à 15h, place de la République.
Post-stressante, un débat en présence de l'auteur Sébastien Fontenelle qui parle des problématiques d'emploi au niveau de la Poste. Le mercredi 8 janvier, 20h au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, Paris 11e.
Alors, rencontre croisée pour les 20 ans de l'insurrection zapatiste, rencontre débat en présence de David Doyon, l'un des auteurs de Viva la Sociale, et de Guillaume Goutte, éditeur et traducteur d'éthique et politique aux éditions de l'Escargot, CICP, mercredi 15 juin, 19h30, 21 Terre, rue Voltaire.
Ce qui termine notre émission, on remercie notre invité venu d'Acrimed, Blaise Magnien.
Merci
et
à vous.
Et présence aujourd'hui de Jean-Marc, de Boris, de Magali, d'Alex et de Claude à la technique. On se quitte avec une petite chanson. Mais non, qui s'appelle Un demi-porc et deux caisses de bière. Ce n'est pas une chanson, c'est du jazz, c'est de Bozanger et Julien Louraud.